réellement libre. Témoignage d'Alexander Sandy Carson. Depuis mon enfance jusqu'à ma 44e année, et cette période comprend 17 ans de sacerdoce catholique romain, j'avais vu dans l'Église catholique la colonne de la vérité, le guide infaillible pour me conduire à Dieu. Or, cette colonne de la vérité catholique romaine n'a pas pour seul fondement l'Écriture infaillible. Elle repose également sur des traditions humaines étrangères à l'Écriture. Celles-ci passent pour être des révélations divines, mais en réalité, elles contredisent et contrecarrent les enseignements limpides de la Bible. Du vivant des apôtres, au premier siècle, on prêchait la vérité dans les rues de Jérusalem et dans le Temple. Par la suite, cette prédication devait constituer le contenu du Nouveau Testament. Au chapitre 6, verset 7, le livre des Actes témoigne de cette prédication. La parole de Dieu se répandait plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Pour ces prêtres juifs de l'Ancienne Alliance, le prix à payer était considérable. Il leur fallait tout quitter pour suivre Jésus. Le cœur transpercé par la vérité, cette épée à double tranchant qu'est la parole de Dieu, dans Hébreux 4, 12, ils laissaient tout et suivaient le Seigneur. Tout ancien prêtre catholique qui est entré dans cette obéissance de la foi se reconnaît certainement dans ce verset, depuis Wycliffe, Jean Hus et Luther jusqu'à ce jour. À différentes époques et de différentes manières, Dieu s'est servi de sa parole écrite pour libérer des hommes, même des prêtres catholiques. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Dans Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. C'est en 1972, pendant mon ministère dans la paroisse catholique du Sacré-Cœur à Rayville, en Louisiane, aux USA, que pour moi la grâce et la vérité du Seigneur sont devenues aussi claires que de l'eau de roche. Voici comment cela s'est passé. Mon baptême, ma première communion et ma confirmation. En 1928, à ma naissance, j'ai été introduit dans l'Église catholique romaine par le baptême. J'avais à peine plus d'un an lorsque ma famille a quitté l'État de New York pour s'installer dans le Connecticut, où j'ai été élevé dans la foi catholique. Je croyais de tout mon cœur à toutes les pratiques et à tous les articles de foi de l'Église catholique. Je prenais très au sérieux ma relation à l'Église et à Dieu. Ma première communion et ma confirmation ont été pour moi des événements décisifs. Après mes études secondaires, je suis entré à Tufts College à Boston pour me préparer à devenir médecin dans l'espoir d'obtenir un jour un doctorat en médecine comme l'un de mes oncles que je respectais beaucoup. Toutefois, après 2 années d'études, j'avais un réel désir de devenir prêtre, car je trouvais qu'il était encore plus urgent d'offrir à mon prochain un secours spirituel qu'un secours médical. Au séminaire. En septembre 1948, j'ai commencé mes études en vue de la prêtrise à St. John's Seminary à Brighton dans le Massachusetts. Combien j'ai aimé ce séminaire! Là-bas, tout était tellement imprégné de sainteté. Cependant, je l'ai quitté au bout de ma première année. J'avais l'impression que jamais je ne pourrais être à la hauteur de la prêtrise, car il s'agissait, j'en étais convaincu, de la plus haute des vocations possibles pour un jeune homme. J'ai donc poursuivi d'autres études à Boston College chez les Jésuites. Presque chaque matin, je servais la messe dans un monastère catholique avoisinant. C'est là, au cours de l'automne 1949, que Dieu m'a sauvé par sa grâce, et la grâce est le seul moyen de salut, à une époque où je connaissais encore bien mal la Bible. Jésus sauve celui qui se repent et qui croit, même s'il est encore, dans une certaine mesure, dans la confusion et dans la nuit. En ce temps-là, je n'étais pas sûr de ma relation à Dieu, mais j'aspirais ardemment à le devenir. Une confession pas comme les autres. Un soir, je suis allé m'agenouiller dans un confessionnal et j'ai confessé tous les péchés que je me souvenais d'avoir commis tout au long de ma vie. Quand je me confessais, c'était toujours premièrement à Dieu que j'avouais mes péchés, bien que ce fût en présence d'un prêtre qui m'accordait l'absolution. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Après avoir déclaré que je me repentais, tout en écoutant le prêtre qui m'accordait l'absolution rituelle, j'ai crié à Dieu dans mon cœur, « Ô Dieu, si tu me pardonnes tous mes péchés, tu seras le souverain de mon cœur, et je te servirai tant que je vivrai. » Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains, chapitre 10, verset 13. En quittant ce confessionnal et en traversant le transept de l'église, j'ai ressenti une immense paix et le cri « Abba, Père !» a retenti dans mon cœur. J'ai su que j'avais une relation personnelle avec Dieu. Cela n'avait rien à voir avec la présence du prêtre, ni avec la formule liturgique, mais cela s'est produit à cause de la présence de Jésus-Christ, notre souverain prêtre, qui a intercédé pour moi et a fait de moi l'objet de sa grâce, de sa miséricorde, de sa compassion. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 1, verset 7, et Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et 9. L'année suivante, je suis revenu au séminaire pour achever mes études en vue du sacerdoce. En effet, à cette époque-là, je pensais que c'était ce que je pouvais faire de mieux pour servir Dieu. J'ai été ordonné par l'évêque Lawrence Sheenan de Bridgeport dans le Connecticut le 2 février 1955 et j'ai commencé mon ministère de prêtre séculier diocésain dans le diocèse d'Alexandria en Louisiane. Après quelques années, l'enthousiasme et la joie que j'avais connus dans ma situation privilégiée ont commencé à décliner. J'avais beau essayer de tout faire du mieux possible, tout cela était devenu un rituel vide et futile. Une nouvelle norme, la Bible. En 1971, après plusieurs années passées à implorer Dieu pour qu'il m'accordât une vie plus profonde, mon immense faim a commencé à s'apaiser. Jésus et la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Écriture, avaient pris une grande place dans ma vie, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Romains chapitre 5, verset 5. Le Saint-Esprit m'a amené à juger la théologie catholique romaine à la lumière de la Bible, alors qu'auparavant, j'avais fait l'inverse, jugeant la Bible à la lumière des doctrines et de la théologie catholique. Désormais, la source de l'autorité dans ma vie n'était plus du tout la même. Un dimanche soir, au mois de juillet 1972, j'ai commencé à lire l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Cette épître exalte Jésus, son sacerdoce et son sacrifice au-dessus de tout ce que connaissait l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Voici un des passages que j'ai lus. Il, Jésus, n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux, chapitre 7, verset 27. Cela m'a fait sursauter, et j'ai commencé à éprouver un grand malaise. Pour la première fois, j'ai compris que le sacrifice de Jésus a consisté en une seule et unique offrande, faite sur le calvaire, une offrande pleinement suffisante par elle-même pour me réconcilier avec Dieu et avec tous ceux qui se sont repentis au long des siècles. J'ai vu alors que le saint sacrifice de la messe que j'offrais chaque jour, tout comme des milliers d'autres prêtres catholiques, était chose fallacieuse, sans rapport aucun avec la réalité. Si donc le sacrifice que j'offrais quotidiennement était dépourvu de sens, alors mon sacerdoce, dont la raison d'être était précisément d'offrir ce sacrifice, était également dépourvu de sens. Bientôt, cette prise de conscience a été clairement confirmée par la lecture du chapitre 10 de la même épître. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les versets 12 à 14. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Verset 18. Sauvés par pure grâce. Cette nuit-là, l'Église catholique romaine a perdu toute crédibilité à mes yeux, car ce qu'elle disait être la vérité était contraire à l'Écriture. Désormais, l'Écriture serait pour moi le seul critère de vérité, et j'ai cessé de considérer le magistère, c'est-à-dire l'autorité enseignante, de l'Église catholique comme normatif. Dans ma lettre de démission, j'ai fait savoir à l'évêque que je quittais la prêtrise parce que je ne pouvais plus offrir la messe, car elle était contraire à la parole de Dieu et à ma conscience. Nous étions alors en 1972. Peu après, j'ai été baptisé par immersion, je me suis consacré à l'étude de la Bible et j'ai été ordonné ministre de l'Évangile. Cela fait plus de 20 ans que je marche dans cette liberté dont parlait Jésus. Et il dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jean, chapitre 8, verset 36. Alexander Sandy Carson. Jusqu'en 1994, son ministère a consisté surtout à organiser des séminaires, à évangéliser et à prêcher en Floride aux USA. En 1995, il a prêché dans de nombreuses églises en Europe de l'Est. En mars 1996, il est allé faire une tournée de 6 semaines pour apporter la parole de Dieu en Sibérie. À la suite d'une émission radiodiffusée, un entretien avec Bob Bush, un chrétien russe séjournant en Californie a pris contact avec lui. C'est ainsi qu'Alexander Carson est resté en Russie pour y annoncer l'Évangile.
This Reformation audio track is a production of Stillwater's Revival Books. SWRB makes thousands of classic Reformation resources available, free and for sale, in audio, video, and printed formats. Our many free resources, as well as our complete mail order catalog, containing thousands of classic and contemporary Puritan and Reform books, tapes, and videos at great discounts, is on the web at www.swrb.com. We can also be reached by email at swrb@swrb.com, by phone at 780-450-3730, by fax at 780-468-1096, or by mail at 4710-37A Avenue, Edmonton, that's EDMONTON, Alberta, abbreviated capital A, capital B, Canada, T6L3T5. You may also request a free printed catalog. And remember that John Calvin, in defending the Reformation's regulative principle of worship, or what is sometimes called the scriptural law of worship, commenting on the words of God, which I commanded them not, neither came into my heart, from his commentary on Jeremiah 7:31, writes, God here cuts off from men every occasion for making evasions, since he condemns by this one phrase, I have not commanded them, whatever the Jews devised. There is then no other argument needed to condemn superstitions than that they are not commanded by God. For when men allow themselves to worship God according to their own fancies, and attend not to his commands, they pervert true religion. And if this principle was adopted by the papists, all those fictitious modes of worship in which they absurdly exercise themselves would fall to the ground. It is indeed a horrible thing for the papists to seek to discharge their duties towards God by performing their own superstitions. There is an immense number of them, as it is well known, and as it manifestly appears. Were they to admit this principle, that we cannot rightly worship God except by obeying his word, they would be delivered from their deep abyss of error. The prophet's words, then, are very important, when he says that God had commanded no such thing and that it never came to his mind, as though he had said that men assume too much wisdom when they devise what he never required, nay, what he never knew.